Eh bien, nous abordons aujourd'hui donc cette première partie annoncée autour du couple interdire justifié. Pour aborder cette question, il faut bien sûr revenir à la guerre. Revenir à Héraclite que j'ai évoqué la semaine dernière, si la guerre est à la fois ce qui nous oppose et ce qui nous est commun, alors il n'est surprenant ni que les premiers interdits fondateurs de cette communauté mondiale qui se cherche encore soient apparus à propos de la guerre, ni qu'ils aient échoué, car les guerres sont plus meurtrières et plus cruelles que jamais, chacun le sait. Alors pourquoi ? Peut-être parce que la question morale reste très ambiguë. Il y a un auteur américain, le philosophe Michael Walzer, qui a publié, réédité d'ailleurs récemment son ouvrage « Guerre juste et injuste », vous trouvez la référence dans la fiche du cours, qui dit très clairement « Il y a toujours deux aspects à la réalité morale de la guerre. La guerre est toujours jugée deux fois. D'abord en considérant les raisons qu'ont les États de faire la guerre, ensuite, en considérant les moyens qu'ils adoptent. » C'est une distinction qui a été exprimée il y a très longtemps par les auteurs du Moyen-Âge. C'était la distinction « jus ad bellum », le droit du retour à la guerre, et « jus in bello », le droit appliqué pendant la guerre. Au fond, le premier incite à limiter le recours à la guerre en encadrant le concept d'agression, et son corollaire de la légitime défense. Et le second engage à limiter les traitements inhumains, qu'il s'agisse des combattants, des prisonniers ou des non-combattants. Alors, ainsi présenté, on peut penser que les deux aspects sont indissociables. Et pourtant, après l'occasion manquée en 1919 avec le traité de Versailles, on sait que Guillaume II ne sera jamais jugé, il n'a pas été extradé par les Pays-Bas. Après l'échec du pacte Briand-Kellogg, du traité de Paris, qui entendait interdire le recours à la force, on sait ce qui l'a suivi. Il faut attendre en réalité 1945, le statut des tribunaux internationaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, pour que la violation des deux interdits, interdit de l'agression, interdit de l'inhumain, soit criminalisée. Ce sont les trois crimes de Nuremberg et Tokyo. D'un côté, le crime contre la paix, crime d'agression, l'article 6, petit a. De l'autre, le crime de guerre ou violation des lois et coutumes de la guerre, prolongé, c'est le 6b, prolongé par la création du crime contre l'humanité, 6 petit c. Mais la question de savoir si l'agression justifie d'éventuels crimes de guerre reste alors implicite. Il était politiquement impensable que les vainqueurs se mettent eux-mêmes en accusation. Après Nuremberg et Tokyo, cette relation étroite entre l'agression et l'inhumain ne s'est pas vraiment clarifiée, c'est tout le problème de ce dont on va discuter aujourd'hui, pendant le cours et ensuite après le cours avec Hervé Asensio au cours du séminaire, car les deux interdits se sont dissociés selon une évolution qui n'est pas linéaire et qui peut même sembler contradictoire. Alors, d'un côté, l'interdit de l'inhumain s'est développé, je dirais parallèlement, à la montée en puissance des droits de l'homme. Le crime de guerre va intégrer les conventions de Genève, les conventions adoptées en 1949 et puis les protocoles additionnels de 1977. Et surtout, le crime contre l'humanité, élargi au génocide et à l'apartheid, 1948-1973, devient progressivement autonome. Au point que le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, 1998, autorise un État parti à retarder de 7 ans l'applicabilité de l'article relatif aux crimes de guerre. C'est la disposition transitoire, l'article 124, que la France a d'ailleurs utilisé. Au moment où elle a ratifié, elle a renvoyé à 7 ans la question des crimes de guerre. En s'autonomisant ainsi, le crime contre l'humanité semble esquisser un paradigme nouveau par rapport au crime de guerre. Pourquoi ? D'abord, il étend les situations de guerre aux crimes commis en période de paix. Ensuite, et là c'est un peu de l'anticipation, le crime contre l'humanité pourrait peut-être absorber la toute nouvelle qualification apparue par exemple en France dans le Code pénal de crime contre l'espèce humaine. Après tout, l'humanité et l'espèce humaine, c'est pas si différent l'un de l'autre. Et ainsi, le crime contre l'humanité pourrait encore s'élargir de la destruction de la vie à la fabrication, autrement dit, si vous voulez, du génocide à l'eugénisme, voire au clonage reproductif, et même de la protection des personnes à celle du patrimoine commun de l'humanité ou des biens communs de l'humanité. On parle beaucoup de climat ces temps-ci, on parle aussi parfois de la santé comme bien public mondial. Toutes ces questions sont ouvertes. En somme, ce crime de lèse-humanité, comme on l'avait appelé après la Deuxième Guerre, loin de se limiter à humaniser la guerre, aurait vocation à construire l'humanité comme une valeur commune. Voilà pour l'interdit de l'inhumain. En revanche, l'interdit de l'agression, qui est posé par la Charte de l'ONU à l'article 2, pourrait se retourner, lui. Il pourrait se retourner au profit de la légitime défense, qui est reconnue aussi par la Charte, article 51, à la victime de l'agression. Et il pourrait se retourner surtout depuis les événements liés au 11 septembre et à ce qui est suivi. Comme le rappelle le grand juriste italien Antonio Cassese, vous avez la référence là aussi dans l'affiche, le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée avait été conçu par la Charte de l'ONU comme une soupape de sûreté, légitimant des mesures prises sans l'accord préalable du Conseil de sécurité. Mais, ajoute-t-il, ce droit naturel de légitime défense a évolué à tel point que l'exception serait devenue la règle. Parce qu'il y a une extension progressive, notamment par application de la légitime défense à l'agression terroriste, ce sont les résolutions du Conseil de sécurité des 12 et 28 septembre 2001, le lendemain des attentats, et cela risque non seulement, toujours selon Cassese, de créer dans le système de la charte une fissure qui pourrait s'élargir encore plus avec des notions qu'on commence à utiliser comme guerre préventive ou guerre préemptive, mais encore le risque est alors d'opposer au crime de guerre comme au crime contre l'humanité un troisième paradigme qui serait directement contraire. Ce paradigme de la guerre contre le crime, qui a été lancé au début comme une sorte de slogan politique, mais qui n'est pas une simple métaphore ni un simple slogan, car cela sous-entend une logique pénale de banalisation, voire de légitimation de l'inhumain, qui est une rupture, qui marque une rupture par rapport aux principes de Nuremberg, aux articles et aux principes de Nuremberg. En somme, les trois crimes du statut de Nuremberg, si je veux résumer ce que je viens de dire, ont connu des évolutions différentes. Le crime de guerre s'est consolidé, le crime contre l'humanité s'est autonomisé. En revanche, le crime d'agression, pourtant défini à Nuremberg comme le crime international suprême, est resté en panne, car il est subordonné dans sa mise en œuvre à un accord sur sa définition. Le statut de la Cour pénale le mentionne, mais sans arriver à en donner une définition, donc la mise en œuvre est suspendue. Alors bien sûr, l'interdit de l'agression est inscrit dans certains textes, notamment les constitutions allemandes et japonaises, le fameux article 9 de la constitution japonaise. Il a été récemment reconnu par la Chambre des Lords dans un arrêt de 2006 dont vous avez également la référence comme ayant valeur de droit coutumier, ce qui est important, mais il peut difficilement être perçu au vu des pratiques comme fondateur du droit positif actuel. D'ailleurs, Vous savez que le Japon envisage d'abroger son article 9. Mes collègues japonais parlent de l'apology fatigue. Ils sont fatigués de s'excuser toujours. Et les lords, dans ce fameux arrêt de 2006, ont accepté que l'agression, l'interdit de l'agression relève du droit coutumier, mais en l'espèce, ils ont rejeté l'argument des requérants, qui étaient des opposants à la guerre contre l'Irak, qui invoquaient le crime d'agression pour légitimer leurs actes de sabotage sur une base de l'OTAN. Autrement dit, en attendant qu'aboutissent dans le prolongement de travaux antérieurs des propositions qui sont en cours pour criminaliser l'agression, on fait des propositions en vue de la conférence de révision du statut de Rome qui est prévue en 2009, en attendant tout cela, la logique est retournée en ce sens que l'agression deviendrait le fait justificatif qui fonderait la légitimité d'un nouveau paradigme, le paradigme de la guerre contre le crime. J'ajoute que ce retournement, qui est très bien illustré par le dispositif mis en place aux États-Unis au lendemain de l'attentat du 11 septembre 2001, a été explicitement défendu et justifié dans la lettre d'Amérique. Vous vous en souvenez peut-être, le journal Le Monde, en février 2002, avait publié cette lettre signée d'une soixantaine d'intellectuels américains, y compris d'anciens opposants à la guerre du Vietnam, comme Michael Wasser, que je citais tout à l'heure. Ils ont défendu le dispositif anti-terroriste américain au motif que les attentats étaient un pur exemple d'agression caractérisée contre des vies humaines innocentes, un fléau mondial que seul le recours à la force peut éradiquer. Seul le recours à la force peut éradiquer. Alors, on serait en quelque sorte passé des trois crimes complémentaires de Nuremberg à trois paradigmes partiellement contradictoires. Au fond, c'est le résultat d'une internationalisation qui ne se fait pas de façon parfaitement rationnelle. Elle consiste à superposer à chaque tournant de l'histoire, à chaque bifurcation de l'histoire, un nouveau vocabulaire, une nouvelle logique et plus largement encore une nouvelle conception de l'éthique, sans jamais supprimer l'ancienne, d'où les contradictions possibles. Alors, l'objectif de cette première partie, interdire et justifier, sera d'examiner comment chacun des trois paradigmes combine à sa manière l'universalisme et le relativisme, puisque c'est ça l'objet principal du cours, la recherche de valeurs communes, à travers l'universalisme et le relativisme. Donc, je tenterai de les distinguer, même si souvent dans les pratiques, il y a enchevêtrement de ces différents paradigmes. D'abord, les deux formes opposées, le crime de guerre cette semaine, la guerre contre le crime la semaine prochaine. Et puis, nous aborderons en dernier lieu le crime contre l'humanité. En dernier, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il m'apparaît, au-delà du droit positif actuel, comme un paradigme encore en construction. C'est pourquoi je terminerai par lui. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur le paradigme du crime de guerre, donc limiter l'inhumain. Déjà, cet intitulé peut porter à critique, si l'on en croit Clausewitz, la notion même de crime serait incompatible avec la guerre. Cet acte de violence, écrivait-il, qui théoriquement n'a pas de limite, pas de limite. Et pourtant, il y a tout un courant de pensée, en Europe et ailleurs, y compris, comme on l'a vu la semaine dernière en Chine, qui rêve d'humaniser la guerre. De peur, écrivait Grotius, 1625, qu'en imitant trop les bêtes féroces, nous ne désapprenions l'homme. La formule est belle, mais j'avais exprimé pour ma part quelques réserves, parce qu'il me semble que la férocité peut aussi apparaître comme le propre de l'homme. Cela étant, il reste que la formule s'inscrit dans une lignée humaniste qui n'a pas l'ambition d'interdire la guerre, mais plutôt de limiter cet inhumain qui est en quelque sorte libéré par la guerre. Alors dans le champ juridique, il faudra attendre longtemps. Il faut attendre le 19e siècle et le début du 20e pour que s'amorce la construction d'un droit international humanitaire qui essaye d'humaniser la guerre autour de deux pôles. Il y a le pôle qu'on appelle le droit de la haie, droit interétatique fait de plusieurs conventions sur lesquelles je reviendrai, qui précise les droits et les devoirs des belligérants dans la conduite des opérations militaires et qui limite un peu le choix des moyens employés. Et puis, ce qu'on appelle le droit de Genève, interétatique et interindividuel, droit destiné à protéger les victimes de la guerre et à sauvegarder les membres des forces armées, surtout quand ils sont mis hors combat, les blessés, les malades, et la population civile qui ne participe pas aux hostilités, et même les biens à caractère civil. Entre ces deux pôles, la distinction a tendance à s'effacer, en tout cas à s'affaiblir. Ça a été très bien souligné, ce rapprochement des deux pôles, dans un avis de la Cour internationale de justice en 1996, un avis qui portait sur la licéité de la menace ou l'emploi d'armes nucléaires. La Cour dit que les deux branches du droit applicable dans les conflits armés ont développé des rapports si étroits qu'ils sont regardés comme ayant fondé graduellement un seul système qu'elle qualifie de complexe. Elle souligne, autrement dit, l'unité, mais aussi l'extrême complexité de ce droit international humanitaire. Alors, pour essayer d'avancer un peu sur notre réflexion universalisme-relativisme, je dirais que l'unité de ce droit international humanitaire, ce droit de la guerre, apparaît dans la définition de l'interdit. Mais en revanche, la complexité de la mise en œuvre pratique de l'interdit reste profondément différente et dépendante du relativisme propre à chaque État. Et au fond, la recherche de valeurs communes, elle est au confluent des deux. Alors d'abord, l'universalisme dans la définition de l'interdit. On peut dire que cet universalisme est attesté par une ratification massive des textes, mais il est bien caché. Il est bien caché sous l'accumulation des dispositions conventionnelles. Walser, dans son livre sur les guerres, dit « Les juristes ont bâti un univers de papier, une montagne de papier, un univers de papier qui échoue sur des points capitaux à correspondre au monde dans lequel le reste des humains, les non-juristes, vivent encore. » Je dirais que la critique n'est pas fausse et que la tendance à ce qu'il appelle une chicanerie utopique, assez joli le croisement des deux mots, chicanerie utopique, qu'il reproche aux juristes, peut en effet apparaître comme un obstacle à la construction d'une véritable communauté de valeurs. Mais je dirais à la défense des juristes que l'obstacle est sans doute inévitable. Il n'est peut-être pas insurmontable, mais il est sans doute inévitable. Parce que cette opacité du droit de la guerre, qu'est-ce qu'elle exprime ? Eh bien, à la fois la force de résistance étatique, qui ne veulent pas qu'on se mêle des pratiques de guerre, et l'obstination des courants humanistes. Et au fond, cette tension entre les États qui résistent et les courants humanistes qui font pression, elle se traduit par des dialogues de sourds, par des négociations toujours recommencées, et par l'accumulation de dispositifs toujours partiels, toujours imparfaits. C'est ça qui produit l'effet de brouillage par accumulation, et c'est malgré cela qu'il faut malgré tout, qu'il faut donc tenter de surmonter cette opacité pour en extraire une signification commune en termes de valeur. On n'a pas d'autre démarche possible. Alors l'effet de brouillage, il suffit de regarder les textes pour voir qu'on n'est pas du tout sur la ligne d'un universalisme de surplomb, clair, cohérent, ordonné. Au contraire, le droit international humanitaire, c'est une construction graduelle et complexe, comme dit la Cour internationale de justice, faite d'ajouts, de retraits, de tâtonnements, de bricolage. Vous savez que j'avais employé beaucoup ce mot les années précédentes, on le retrouve ici, à partir des deux pôles. Alors, pour ce qui est le droit de la haie, c'est compliqué parce qu'il est déjà lui-même au croisement de dispositifs nationaux et internationaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans le droit de la haie des emprunts au droit américain, notamment au code Liber de 1864, qui avait été conçu au moment de la guerre de sécession par un juriste dont les deux fils combattaient dans des camps opposés, et qui a produit un premier effort de codification du droit de la guerre qui a inspiré un grand nombre de codes militaires nationaux Et aussi ce qu'on a appelé le manuel d'Oxford 1880, élaboré par l'Institut de droit international pour servir de modèle aux législateurs nationaux. Mais ce code Liber, et d'ailleurs les instructions qui accompagnaient pour le comportement des armées en campagne, vont inspirer aussi les conventions de la Haye elles-mêmes, les conventions 1899 et 1907. Cela étant, ces conventions prévoient seulement la responsabilité internationale des États et pas celle des individus. Mais elles sont intéressantes du point de vue de la recherche de valeurs communes parce qu'on y trouve la première formulation de la clause dite de Martens, parce qu'elle avait été imaginée par un juriste et diplomate russe, Fyodorovitch de Martens, qui disait ceci. Il faut être pragmatique. En attendant un code plus complet des droits de la guerre, il faut placer les populations et les belligérants sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité, tels qu'ils résultent aussi des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Formule très intéressante dans la mesure où elle va être citée par des juridictions aussi différentes que le tribunal de Nuremberg, le Conseil de guerre de Bruxelles et plus récemment la Cour internationale de justice et le tribunal pénal international de La Haye pour l'ex-Yougoslavie. À travers cette clause, au fond, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on transforme ces exigences de la conscience publique et ces lois de l'humanité en principes de l'humanité, c'est d'ailleurs les mots qu'on retrouvera dans un texte postérieur, le protocole 1 à la Convention de la Haye, ce qui veut dire en termes un peu plus clairs que ces principes de l'humanité sont opposables aux États en dehors même de tout lien établi par un traité, par une convention. Ils sont reconnus comme faisant partie du droit coutumier, voire du jus cogens, c'est-à-dire des normes impératives. Alors ces principes ont bien pour objet de limiter l'inhumain. Il s'agit d'interdire l'utilisation des moyens et méthodes de guerre qui ne seraient pas nécessaires pour obtenir un avantage militaire précis. Donc on incite par là à préférer, si vous voulez, la capture à la blessure à la mort, à épargner autant que possible les non-combattants, et à rendre la captivité aussi supportable que possible, etc. Mais tout cela est du domaine de l'interdit. Ça ne suffit pas, évidemment. Ça ne suffit pas à incriminer la transgression. De l'interdit de l'inhumain à l'incrimination pénale de la transgression, l'étape sera franchie par le droit de Genève, l'autre pôle, qui est inspiré, vous le savez, par la Croix-Rouge internationale. Alors, la première convention date de 1906 pour l'amélioration du sort des militaires blessés et malades. Elle impose aux États de criminaliser l'inhumain, c'est-à-dire de réprimer en temps de guerre les actes de pillage et de mauvais traitement envers les blessés et malades des armées. De même avec la Convention de 1929 qui complète la première. Alors, le moment surtout important dans la criminalisation, c'est le statut de Nuremberg, le fameux article 6 qui incrimine tout l'ensemble. Les petits b incriminent la violation des lois et coutumes de la guerre et indiquent d'ailleurs des exemples de ces violations. Exemples qui vont eux-mêmes être repris, vous voyez l'effet d'accumulation, la complexité. Exemples de Nuremberg qui seront repris dans les quatre conventions de Genève les plus célèbres, celles qui sont adoptées en 1949 et qui permettent d'établir la liste des personnes et des biens protégés, complétée encore par les protocoles de 1977. Et le phénomène ne s'arrête pas là. La fabrication de ce droit de l'inhumain ne s'arrête pas avec la création des tribunaux pénaux internationaux, nouvelles négociations, nouveaux compromis. On va encore compliquer le tableau. Les deux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda peuvent juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire, ça c'est simple, mais leur statut diverge selon la nature des conflits armés. Interne et international pour l'un, purement interne pour le second. Tout cela n'est pas clair. On en arrive alors au statut de Rome, 1998, création de la Cour pénale internationale. Au lieu de simplifier l'ensemble, le statut détaille encore la définition des crimes de guerre en reprenant la distinction des deux types de conflits armés, à tel point que certains y voient une régression par rapport aux efforts des tribunaux pénaux internationaux pour unifier l'application des règles. D'autant plus que le statut de Rome, donc la Convention de 1998, semble distinguer différents types d'incriminations, crimes de guerre, certaines qui sont directement applicables, d'autres pour lesquelles la Cour doit établir au cas par cas leur nature criminelle. Voyez cette minutie même des juristes. Elle prêterait à sourire si la matière n'était pas aussi tragique et s'il ne fallait pas réfléchir que derrière ce jargon des juristes, derrière cette minutie, il y a une difficulté très grande pour transformer l'indignation en un langage qui puisse prendre une signification commune, malgré les résistances politiques et malgré les diversités culturelles. Tout le problème est là, il n'est pas encore résolu, on le sait bien. Alors malgré tout, on peut essayer de saisir cette signification commune de l'interdit. Déjà à l'ouverture du procès de Nuremberg, le procureur général américain Robert Jackson est assez explicite en la matière quand il déclare, c'est un peu grandiloquent, mais l'époque le voulait, il ne faut pas oublier le contexte, la seule façon d'en finir avec les tyrans, la force et les agressions est de soumettre tous les hommes à la même loi. Ce procès est un effort désespéré de l'humanité pour appliquer la loi à des hommes qui ont abusé de leur pouvoir pour ébranler les fondements de la paix mondiale et violer les droits de leurs voisins. La véritable accusatrice, ajoutait-il, est la civilisation. Dans tous nos pays, elle est toujours une idée imparfaite et qui cherche sa voie. Alors ce que je tire de ce passage, au fond, c'est deux lectures possibles, car le procureur, en visant la force et les agressions, semble clairement associer le procès à l'idée de protéger la paix mondiale, la protection de la paix. Mais en même temps, quand il présente le procès comme un effort désespéré de l'humanité où la véritable accusatrice serait la civilisation, il indique peut-être aussi autre chose. Il indique peut-être aussi que ce droit humanitaire si embrouillé, si confus, qui tente de construire l'interdit de l'inhumain, pourrait devenir une sorte de langage commun de l'humanité. Et c'est ce langage qui se cherche encore, mais qui se précise au fil de la jurisprudence internationale, car maintenant nous avons de la jurisprudence, nous avons donc des cas concrets, qu'il s'agisse des avis de la Cour internationale de justice ou des jugements des tribunaux pénaux. Alors, ce que je remarque, c'est que dans les avis de la Cour internationale apparaît une expression à première vue bien peu juridique, qui est l'expression de considération élémentaire d'humanité. Considération élémentaire d'humanité. Cette expression n'est jamais utilisée de façon isolée, mais ces considérations sont toujours traitées comme source d'obligations juridiques. Au fond, elles vont permettre de contourner les obstacles juridiques. Par exemple, une convention existe, mais elle n'est pas applicable, ou elle existe, mais elle n'a pas été ratifiée. Et elles vont permettre d'associer dans un même concept, c'est pour ça qu'on contourne l'obstacle juridique, en associant dans un même concept la règle morale et la règle juridique. Alors évidemment, on peut trouver la formule juridiquement confuse, car elle consiste à assimiler le fondement de la norme à la norme elle-même. Considération élémentaire d'humanité, c'est le fondement et en même temps c'est la norme. Politiquement, on peut la trouver contestable parce qu'elle heurte de front la souveraineté des États, mais il n'en reste pas moins, et je me réfère à l'article de Pierre-Marie Dupuis, que vous trouvez également dans l'affiche, que c'est en se fondant sur ces considérations élémentaires d'humanité que la Cour internationale de justice a pu affirmer, notamment dans son avis sur les armes nucléaires, c'est quand même pas un sujet mineur, que les États n'ont pas un choix illimité quant aux armes qu'ils emploient, et qu'il ne fait aucun doute que le droit humanitaire s'applique aux armes nucléaires, même s'il n'en a pas explicitement traité. En somme, cette expression de considération élémentaire d'humanité permettrait à la Cour, en explicitant les interdits du droit international humanitaire, de participer à sa manière à la construction de valeurs communes. Mais au fond, il y a là une sorte de pédagogie de l'interdit fondateur qui est pratiquée aussi par d'autres juridictions, notamment par les tribunaux pénaux internationaux, en particulier à propos de l'article 3 commun aux conventions de Genève, qui est un corps minimal de règles impératives rendant compte des principes humanitaires fondamentaux. Alors, de façon très claire, les juges pénaux, reprenant les termes de la Croix-Rouge internationale, disent « le but de cet article 3 commun aux conventions de Genève, c'est d'assurer le respect du minimum de règles d'humanité que tous les peuples civilisés considèrent comme valables partout et en toutes circonstances. C'est la quintessence des principes humanitaires énoncés par l'ensemble des conventions de Genève. » Et à partir de là, par exemple dans l'arrêt de Lalitch, les juges précisent qu'il s'agit donc de protéger la personne humaine contre des actes odieux que toute nation civilisée considère comme inacceptables en toutes circonstances. Alors ça, c'est la formule qui peut poser des problèmes sur les conséquences juridiques. Des actes inacceptables en toutes circonstances. Faut-il comprendre que certains actes commis au cours des conflits armés sont inacceptables en toutes circonstances, c'est-à-dire aussi bien pendant les guerres, parce qu'ils violent le droit à la dignité humaine? Vous savez que dans les instruments droits de l'homme, le droit à la dignité est un droit indérogeable. Mais là, on est en pénal. Alors, est-ce qu'il faut comprendre cela, ou est-ce qu'il faut admettre que précisément en cas de guerre, l'interdit peut être levé ou le crime peut être justifié en raison des nécessités militaires? Interdire, justifier. Les réponses ne sont pas claires du tout. Les réponses varient selon les cas. Si on prend l'exemple sur lequel on reviendra tout à l'heure dans le séminaire de l'attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, l'attaque contre des civils ou des biens de caractère civil est sanctionnée par le statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie sur la base de l'article 51.2 du protocole. Mais la réponse des tribunaux a évolué, elle s'est progressivement orientée vers une interdiction absolue des attaques contre une cible civile. C'est une évolution qui est fortement marquée par un revirement de la chambre de première instance dans l'affaire Galitch, qui a été jugée en 2003. Alors l'affaire Galitch, si je vous dis qu'il s'agit de l'encerclement militaire de la ville de Sarajevo par les forces serbes de Bosnie en 1992, vous voyez l'importance de l'arrêt. L'accusation fait valoir dans cette affaire que le siège de Sarajevo, comme on a fini par l'appeler, est un épisode d'une telle notoriété qu'il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale pour trouver un parallèle dans l'histoire de l'Europe. Depuis lors, aucune armée régulière n'a mené contre les habitants d'une ville européenne une campagne d'une violence si implacable qu'elle les a plongés dans un état de dénuement digne du Moyen-Âge. Tout au long de la période couverte par l'acte d'accusation contre le général Galitch, aucun habitant de Sarajevo n'était à l'abri d'une attaque délibérée, que ce soit chez lui, à l'école ou dans un hôpital. Alors les juges dans cette affaire, par un revirement remarqué de jurisprudence, vont considérer que l'attaque contre des civils ou des biens à caractère civil est interdite de façon absolue. Alors les arguments juridiques, je vous les indique au passage, ils se réfèrent à la fois au texte lui-même, à cet article 51, paragraphe 2, mais ils se réfèrent aussi à la règle coutumière qui consiste à interdire de diriger des opérations sur des objectifs autres que militaires, et ils se réfèrent à l'arrêt de la Cour internationale de justice sur les armes nucléaires. Cette conception très ferme sera aussi celle de la Chambre d'appel dans une autre affaire sur laquelle on reviendra par la suite, l'affaire Blaskic, dans des circonstances un peu différentes. En première instance, les juges de la Haye avaient admis la justification pour des nécessités militaires d'attaque contre des civils. En appel, la Chambre d'appel, donc en 2004, la première décision était de 2000, va souligner que le fait de prendre pour cible des civils est absolument prohibé en droit international coutumier. Donc il y a le revirement de l'arrêt Galitch va s'appliquer en appel à l'affaire Blaskitch. Vous voyez à quel point tout ça est évolutif. En revanche, sur d'autres points, la jurisprudence reste hésitante. Par exemple, en ce qui concerne la gravité des conséquences d'une attaque, quel est le seuil de gravité à exiger quand il y a une attaque illicite contre des civils ou des biens de caractère civil? Là, il y a une évolution de la jurisprudence. Et puis, il reste admis que les attaques visant des objectifs militaires, qu'il s'agisse de biens ou de combattants, peuvent provoquer des dommages civils collatéraux. L'attaque n'a pas été voulue contre les civils, mais l'attaque contre des objectifs militaires peut provoquer les fameux dommages civils collatéraux. Comment ne pas penser aux pratiques américaines de bombardement de terreur sur les villes allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et comment ne pas penser à Hiroshima? Autrement dit, on voit bien que le droit est une sorte de miroir des contradictions entre ce droit international humanitaire qui se cherche et des pratiques nationales qui restent différentes d'un État à l'autre. Ce sont de tels flottements qui nous ramènent au relativisme dans la mise en œuvre concrète de l'interdit de l'inhumain. Relativisme dans la mise en œuvre. L'universalisme n'est pas réalisé concrètement. Alors pour parler du relativisme, évidemment, on peut penser d'abord au recul historique, ce que fait Walser dans son livre sur les guerres justes et injustes. S'agissant du jugement moral sur les comportements des belligérants, Walser nous dit « on peut s'attendre à trouver des dichotomies radicales en matière de perception, en matière de compréhension » entre des cultures radicalement séparées et dissemblables. C'est vrai que là, la diversité culturelle peut jouer un rôle important. Autrement dit, le passé, l'histoire de chaque peuple peut expliquer en partie les résistances à l'universalisme. Donc expliquer ce que j'appellerais une renationalisation de l'interdit du crime de guerre. Mais la référence au passé, la référence à l'histoire, laisse sans réponse la question de l'avenir. Or, la question de l'avenir me semble obscurcie par une certaine inadéquation d'un interdit qui s'est construit sur une séparation qui n'est peut-être pas complètement dépassée, mais qui est en voie de dépassement entre guerre et paix, entre combattants et population civile. Et c'est cet aspect-là de l'inadéquation que je voudrais voir après avoir rappelé ce que j'appelle la renationalisation. Renationalisation puis inadéquation. Pour qu'il y ait renationalisation du droit international, il faut qu'il y ait d'abord eu transposition en droit interne. Or, un certain nombre d'études comparatives, notamment l'ouvrage qui va prochainement paraître en 2007, Juridiction militaire et d'exception, perspectives comparées et internationales sous la direction d'Elisabeth Lambert, on voit dans ces études comparatives une résistance des États à la criminalisation, à l'inscription dans leur code pénal national du droit international humanitaire. Et il faut commencer, il faut toujours balayer d'abord devant sa porte, il faut commencer par la France. La France vient seulement d'élaborer, 6 ans après la signature du traité portant création de la Cour pénale internationale, le projet de loi qui permettra, on est encore au futur, d'incriminer les crimes de guerre dans notre code pénal. C'est le projet qui a été présenté en Conseil des ministres le 26 juillet dernier, projet de loi portant adaptation du code pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale. Ça a pris du temps. Alors que dès 2002, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission française, avait rappelé la nécessité de combler le vide juridique actuel, en particulier sur les crimes de guerre. Il y a un rapport de notre Commission des droits de l'homme sur ce point. Et 3 ans plus tard, en 2005, la Fédération internationale des droits de l'homme soulignait que le droit pénal français actuel permet de réprimer des actes individuels isolés commis en cas de guerre, mais ne contient pas les dispositions et les définitions qui permettraient de prendre en compte la spécificité des crimes de guerre. Il est vrai que la France, sans doute, en raison de son passé colonial, a manifesté à plusieurs reprises une certaine méfiance à l'égard de cette qualification pénale des crimes de guerre. Ainsi, nous avons écarté l'imprescriptibilité dans la loi de 1964. Nous avons admis l'imprescriptibilité pour les crimes contre l'humanité, mais écarté pour les crimes de guerre. Et comme je l'ai rappelé il y a un instant, nous avons utilisé la clause transitoire de l'article 124 pour retarder la mise en œuvre du statut de la Cour pénale internationale. Nous l'avons accepté tout de suite pour les crimes contre l'humanité, nous l'avons retardé pour les crimes de guerre. Alors, le projet déposé en 2006 comblerait enfin la lacune avec quelques petites nuances. D'abord parce que le projet sépare le crime de guerre du crime contre l'humanité. Ils vont se trouver dans deux livres différents du Code pénal, livre 2 pour le crime contre l'humanité, livre 4 bis pour les crimes de guerre, ce qui veut dire peut-être la possibilité d'un régime juridique autonome. Et puis, on peut reprocher ce que font les associations, les ONG, les organisations non gouvernementales. On peut reprocher une transposition imparfaite du droit international qui confirme en quelque sorte l'idée qu'en transposant le texte, on l'euronationalise un petit peu sur certains points. Par exemple, les atteintes aux biens définies comme pillage font l'objet de deux faits justificatifs qui sont prévus par le droit international, mais que le droit français élargit un peu au passage. L'état de nécessité est élargi par la formule un peu vague des nécessités militaires, c'est très, très général, alors que le statut de Rome exige que les infractions commises aient été impérieusement commandées par les nécessités du conflit pour que ça vaille justification. Même chose pour la légitime défense. Le projet transpose le statut au profit de la personne qui, pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou celle d'autrui, ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, accomplit un acte de défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'infraction. Mais le texte ne transpose pas la référence au caractère imminent et illicite du recours à la force qui déclenche la riposte, alors que cette précision figure dans le droit international et alors qu'on peut penser qu'elle est importante pour appliquer un principe de proportionnalité qui est requis, lui, par le texte. Cela dit, la position française n'est pas isolée. L'étude comparative montre que dans beaucoup d'autres pays, l'étude portait sur l'Amérique latine, sur la Chine, en passant par l'Afrique et par d'autres pays d'Europe, beaucoup d'autres pays ont peu d'empressement aussi à transposer le droit international humanitaire dans leur code pénal interne. Vous pourrez voir dans le détail lorsque l'ouvrage sera paru. Mais il y a un pays qu'il faut examiner de plus près parce qu'il a une position singulière, ce sont les États-Unis. La position des États-Unis, je dirais qu'elle est doublement singulière. Elle est singulière en raison de cette longue tradition d'une justice militaire américaine dont j'ai rappelé qu'elle avait elle-même inspiré le droit international, le fameux code Lieber, guerre de sécession. En même temps, elle est singulière en raison du statut de superpuissance des États-Unis dans l'ordre international. Alors, il y a une sorte de contradiction dans le droit américain, puisqu'il a été l'un des premiers à avoir proclamé que le droit de la guerre doit être guidé par des principes de justice, d'honneur et d'humanité. L'article 4 du Code Lieber dit « Ces vertus conviennent aux soldats plus encore qu'à tout autre homme, pour la raison même qu'ils possèdent la puissance des armes contre des êtres désarmés. » Ce code n'admettait aucune justification pour la cruauté, et ce terme de cruauté englobait la torture afin d'obtenir des renseignements. Alors, les dispositifs qui ont suivi, notamment les plus récents qui sont encore applicables, comme le texte de 1950, Uniform Code of Military Justice, ou la loi de 1996, War Crime Act, ne détaillent pas les crimes de guerre, mais ils énumèrent un certain nombre d'infractions pénales passibles des cours martiales. Ces cours martiales peuvent juger les militaires américains, mais aussi les prisonniers de guerre détenus par les forces armées américaines, et toute personne qui, alors qu'il combat pour son gouvernement, est capturée par les forces armées, tout prisonnier ennemi de guerre. Et il faut ajouter que ces cours martiales respectent les garanties essentielles du procès équitable, au sens notamment du droit constitutionnel américain, mais aussi au sens du droit international du procès équitable. Alors le contraste n'en est que plus saisissant avec l'évolution postérieure au 11 septembre. Une évolution qui est marquée par le basculement des dispositifs de droit pénal et civil vers un nouveau dispositif administratif qui non seulement ne transpose pas le droit international humanitaire, mais le transgresse ouvertement, ainsi que le droit international des droits de l'homme. Ce dispositif, il est très connu. Il est créé par l'ordonnance présidentielle du 13 novembre 2001 avec l'apparition de commissions militaires dont les règlements dérogent au droit national et au droit international. Alors, il y a eu des interventions successives de la Cour suprême des États-Unis qui ont un peu amélioré le dispositif, mais pas totalement. En 2004, deux arrêts sur lesquels on reviendra dans le séminaire, Razul et Hamdi, vous avez les références en note, qui ont réintroduit en application de la Constitution américaine une partie des garanties qui avaient été supprimées, des garanties de procédure, mais sans référence au droit international. En revanche, le dernier arrêt, celui de juin dernier, juin 2006, l'arrêt Hamdan contre Rumsfeld, là, les juges majoritaires constatent que les commissions militaires ont transgressé à la fois le droit américain, notamment le Uniform Code of Military Justice, et le droit international qu'il incorpore, en particulier les conventions de Genève. Donc il y a une référence aux conventions de Genève. Il y a une référence, mais en même temps, les juges américains ne prennent pas clairement position sur l'applicabilité directe de ces conventions. On peut avoir le sentiment que ces conventions sont appliquées parce qu'elles ont été incorporées explicitement par le Uniform Code. En tout cas, ni la Cour suprême, ni le Congrès américain n'abordent de front la question de l'inadéquation de l'interdit aux nouvelles réalités. Il faut dire que le Congrès américain n'est pas resté les bras croisés après l'arrêt Hamdan de juin 2006. Il y a eu dépôt d'un projet de loi Military Commission Act et vote de cette loi, qui date maintenant du 17 octobre dernier, pour essayer d'encadrer ces fameuses conventions de Genève à laquelle imprudemment les juges suprêmes s'étaient référés. Donc il y a un nouveau texte qui essaye de limiter les apports de la Cour suprême. Mais pas plus le Congrès que la Cour suprême n'aborde la question de l'éventuelle inadéquation de l'interdit aux nouvelles réalités. Et c'est le dernier point que je voudrais évoquer et qui fera le relais avec le séminaire. Je parle d'inadéquation en ce sens que ce paradigme du crime de guerre me paraît atteint dans sa logique propre, c'est-à-dire non seulement dans sa dénomination, crime de guerre, mais aussi à travers les concepts qui fondaient le droit humanitaire sur une séparation nette entre la guerre et la paix, entre les ennemis combattants et les civils innocents. Car les pratiques actuelles rendent très difficile l'application de cette double dichotomie. D'abord, entre la guerre et la paix. La séparation est remise en cause avec le développement, la multiplication de ce qu'on appelle maintenant les opérations de maintien de la paix, qui sont des opérations militaires, mais qui sont engagées pour faire la paix, peacemaking, faire la paix littéralement, et qui sont extrêmement difficiles à classer, que ce soit des opérations nationales, américaines, quelquefois françaises, ou que ce soit le plus souvent des opérations multinationales, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, l'Union africaine. De toute façon, ces forces de maintien de la paix répondent à une sorte de gradation très subtile et difficile à interpréter juridiquement, qui va de maintenir la paix, peacekeeping, à imposer la paix, peace enforcement, voire à construire la paix, peace building, ce qui va les rapprocher tantôt de forces de maintien de l'ordre, la police, tantôt de forces armées lancées à la conquête d'un territoire, ou même les rapprocher de forces d'occupation. Alors l'envoi de troupes à l'étranger ne peut donc être automatiquement assimilé à un acte d'hostilité. Généralement, la situation dans laquelle se pose la question d'un envoi de forces armées à l'étranger se présente comme un stade intermédiaire entre les deux extrêmes, la guerre et la paix, de la vie politique. En effet, l'État où se trouvent les forces étrangères continue à exister, même s'il est en difficulté. Et l'État d'origine des forces armées n'a pas du tout l'intention de renverser l'ordre public dans l'État hôte, mais au contraire de stabiliser, voire de contribuer au maintien du statu quo politique. D'où l'inadéquation des catégories du droit humanitaire et peut-être plus largement du droit international général, les privilèges de juridiction qui sont reconnus aux diplomates, consuls, aux représentants de l'État, sont liés au maintien de relations dites normales, c'est-à-dire pacifiques. Il n'y a pas de privilège juridictionnel accordé aux troupes étrangères, dont la présence à l'étranger est toujours considérée comme le prototype de l'acte hostile. Alors, quand ces troupes ont gagné le contrôle effectif du territoire, eh bien, on applique le droit de l'occupation. Dans les situations nouvelles liées au maintien de la paix, la transposition est délicate. Théoriquement, l'État hôte garde pleine juridiction sur son territoire, y compris pour les actes commis par des militaires étrangers. Alors que l'État d'origine, lui, il fait tout pour essayer d'exempter ses soldats de la juridiction du pays hôte. D'autant que la plupart des opérations se déroulent très loin, dans des pays qui ont des systèmes pénaux extrêmement différents, qui appliquent, par exemple, dans certains cas, la charia dans leur code pénal. Alors, on va voir se développer une pratique d'accords mutuels, et en l'absence d'accords, donc d'accords bilatéraux, et en l'absence d'accords, s'il s'agit d'opérations placées sous le contrôle de l'ONU, il y a une directive du secrétariat général qui impose le respect du droit humanitaire, mais qui donne compétence, en cas de violation, au pays d'origine. Donc, soit on décide la compétence par des accords bilatéraux, soit pour l'ONU, il y a cette incitation à choisir le pays d'origine. En réalité, s'agissant de forces le plus souvent multinationales, on aurait besoin d'une compétence multinationale. Autrement dit, ce serait une raison de plus pour avoir recours à la Cour pénale internationale en ces domaines. Mais évidemment, la question est très délicate en raison de l'opposition de la superpuissance américaine et de quelques autres pays non moins importants. Alors, la situation est extrêmement difficile, d'autant que ces opérations de maintien de la paix, comme je le disais il y a un instant, se rapprochent souvent d'opérations policières. Les militaires peuvent devenir témoins. Ils sont même quasiment, dans certains cas, des auxiliaires de justice quand il y a procès pénal. Donc, ce n'est pas seulement l'interdit du crime de guerre qu'il faudrait reconstruire sur le fondement de valeurs communes, mais c'est tout le cadre juridique des opérations de maintien de la paix. Alors, il y a des efforts qui se font au plan régional. Dans le cadre européen, on est passé de la politique étrangère et de sécurité commune à l'émergence d'une politique étrangère de sécurité et de défense. Il y a des textes, notamment dans le projet de traité constitutionnel, mais évidemment, c'est limité à l'Europe. Et à l'échelle de l'ONU, il y a des efforts, mais qui ne sont pas suivis de beaucoup d'effectivité, au niveau de la sous-commission des droits de l'homme, qui a adopté une série de principes, de recommandations en la matière. De toute façon, qu'il s'agisse de l'enquête, de la collecte des preuves ou de l'arrestation des suspects, aller vers des valeurs communes est absolument nécessaire, d'autant que la notion même de suspect dans ces affaires liées au maintien de la paix est en quelque sorte écartelée, et c'est l'autre source d'inadéquation, entre le droit de la guerre et le droit pénal. On arrive à cette séparation dépassée bien souvent, et qui est traditionnelle dans le droit de la guerre, entre le combattant ennemi, qui relève du droit de la guerre, et puis le civil, qui est le cas échéant criminel au sens du droit de la paix, au sens du droit pénal ordinaire. Entre ces deux catégories, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Ben, la fameuse catégorie des combattants illégaux, unlawful combatants. esquissée par la jurisprudence américaine avant d'être explicitée, et on y reviendra avec Hervé Ascensio, par la Cour suprême d'Israël dans un arrêt très récent de décembre 2006 à propos de cette terrible question des assassinats ciblés, des assassinats de personnes soupçonnées de terrorisme qui ont lieu mais qui entraînent parfois un certain nombre de dommages collatéraux. Il y aurait eu environ 300 membres de groupes terroristes ainsi ciblés et assassinés et 150 civils tués. Mais revenons d'abord à la jurisprudence américaine. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que la Cour suprême des États-Unis a utilisé cette expression de combattants illégaux à propos de saboteurs allemands qui avaient été arrêtés sur territoire américain et jugés par une commission militaire. C'est l'arrêt Kirin, vous avez la référence, 1942. Dans cette affaire, la Cour précise la différence. Alors que les combattants légaux, lawful, bénéficient quand ils sont capturés et détenus du statut défini par le droit humanitaire comme prisonniers de guerre, les combattants illégaux ont un statut hybride. En ce sens qu'ils sont combattants, donc comme tels, ils peuvent être capturés et détenus. Mais ils sont auteurs d'actes illégaux et comme tels, ils peuvent être jugés et punis selon une procédure d'exception. Donc, statut complètement hybride. Comme vous le savez, c'est cette formule qui a été reprise et fortement valorisée dans l'ordonnance du président Bush du 13 novembre 2001 à propos des terroristes. Et c'est cette formule qui sera admise, sous réserve de quelques garanties de procédure dont nous avons parlé, par la Cour suprême dans les arrêts 2004. Alors, c'est une formule pourtant fort critiquée, car il s'agit de désigner comme combattants illégaux des personnes à qui on n'accorde ni les droits des prisonniers de guerre, ni les droits reconnus aux accusés dans un procès pénal. C'est donc une sorte de statut de hors-la-loi, outlaw. Et comme l'avait dit un juge anglais peu après l'ordonnance Bush, on crée ainsi un trou noir, black hole, dans l'état de droit. Alors ça peut expliquer la position plus complexe de la Cour suprême d'Israël dans son arrêt de décembre 2006 à propos des assassinats ciblés. Elle refuse de s'en tenir à cette conception hybride telle qu'elle avait été définie par la Cour des États-Unis, en rappelant que ces combattants, eh bien Dieu les a créés aussi bien à son image, « God created them as well in his image ». Leur dignité humaine doit être honorée aussi bien que celle des autres. Ils doivent bénéficier de la protection, même si c'est une protection minimale, du droit international coutumier. Donc, ils ne sont pas des outlaws, ils ne sont pas des hors-la-loi. Mais alors, comment définir cette protection minimale ? Most minimal, dans l'arrêt. La plus minimale, si on peut dire. L'intérêt de l'arrêt, c'est de dire, de faire face à la difficulté en disant il y a une réalité nouvelle, on est entre la situation de guerre et de paix, il y a une réalité nouvelle et donc il faut faire de nouvelles interprétations. Et elle reconnaît, la Cour suprême d'Israël, explicitement l'apparition d'une troisième catégorie qui échapperait à la distinction civile et combattant. À partir de là, les juges israéliens ne prennent pas une position systématique. Ils refusent de décider à l'avance que tout assassinat ciblé serait contraire ou conforme au droit international, pas de position générale et abstraite, mais ils posent un certain nombre de conditions préalables à l'exécution de l'assassinat, et notamment le principe de proportionnalité. Donc ils se réservent au cas par cas de censurer ou d'admettre telle ou telle pratique. Alors je dirais que cette position suscite à la fois approbation et réserve. Je pense que d'abord il faut saluer cet effort pour aborder de front, enfin, par référence aux garanties d'un état de droit, l'une des questions les plus difficiles qui soient. Si on admet que le droit est particulièrement nécessaire en cas de guerre, c'est ce que dit la Cour, la Cour est en même temps consciente de l'enjeu posé selon laquelle les combattants illégaux n'ont ni les droits des prisonniers de guerre, ni ceux des civils. Elle aborde de front la question, elle ne la fuit pas. En même temps, je garde certaines réserves, car bien que la Cour évoque au passage la jurisprudence internationale, la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux et même celle de la Cour européenne des droits de l'homme sur la légitime défense, sa position, qui est basée sur un principe d'équilibre, balancing, et qui refuse le tout ou rien, risque cependant, c'est la critique que je ferai, d'aboutir à une renationalisation du droit applicable. Autrement dit, j'en viens à la conclusion de ces premiers développements sur le paradigme du crime de guerre. En écartant le paradigme du crime de guerre, la Cour suprême d'Israël est amenée, comme celle des États-Unis, à esquisser un nouveau paradigme qui serait la guerre contre le crime. Or, ce nouveau paradigme, et ce sera le thème de la semaine prochaine, risque non seulement de brouiller la distinction entre le droit pénal et le droit de la guerre, mais ce qui est plus grave peut-être, d'affaiblir ou même de ruiner l'idée même de valeur commune, l'idée même de valeur commune, d'un universalisme de l'inhumain. En conclusion, je dirais que si le dépassement du paradigme du crime de guerre semble inéluctable, il n'est pas sûr que la meilleure solution consiste à renationaliser le droit applicable aux pires violences, au risque de s'engager dans un processus régressif qui peut conduire à des vengeances en chaîne.